Comme je l'ai dit donc hier soir en première étude, le titre de notre livre que j'ai en tout cas mis en avant, Jonas, le prophète contestataire, et nous avons commencé à comprendre et à voir que cet homme, Jonas, est assez particulier dans sa manière d'être vis-à-vis de Dieu. Et nous nous sommes dit, mais comment un prophète peut-il contester un ordre de Dieu ? Hein, c'est, je l'ai dit hier, un licenciement assuré, n'est-ce pas ? Faute professionnelle. Non. Nous avons donc vu hier ce que j'ai appelé le sommeil du juste, entre guillemets. Et nous avons essayé de comprendre pourquoi Jonas pouvait-il dormir alors que tout le monde s'affairait sur le pont à cause de la tempête qui sévissait sur la mer. Donc nous avons laissé Jonas, souvenez-vous, hier soir, pour ceux qui étaient là, au beau milieu de la mer. La mer s'est calmée. Pour les marins, il n'y a pas de souci. Eux, Jonas, est mort. Ils l'ont jeté à l'eau. Et quand ils l'ont jeté à l'eau, la tempête faisait rage. Donc pour eux, le bateau s'étant déplacé, les flots ayant déplacé le corps de Jonas, je ne sais plus où il est, mais humainement parlant, il ne peut pas être en vie. Ce n'est pas possible. Eh bien non. Dieu n'a pas l'intention de laisser son prophète mourir en pleine mer. Il a besoin de lui à Ninive. Oh, il aurait pu prendre quelqu'un d'autre, hein, puisque Jonas est têtu. On va le voir surtout cet après-midi, comment il s'entête. Mais non, c'est lui qu'il veut et pas un autre. Donc c'est lui qui ira à Ninive. Et c'est donc par un miracle que Jonas va être sauvé de la noyade, sans pour autant être au bout de ses surprises. Et là, notre prophète va subir une seconde confrontation avec Dieu, car la tempête était une première confrontation, puisque lui-même, il le dit, « Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette tempête. Je fuis le Dieu des cieux », disait-il aux marins. Mais cette seconde confrontation va être encore plus terrible et terrifiante en même temps. Nous allons donc lire le chapitre 2. Et tout comme le chapitre 1er, je l'ai dit hier soir, il y a une structure dans ce livre, ce qui montre que l'auteur n'a pas voulu simplement raconter une histoire, mais il a voulu mettre en avant des faits importants. Et je vous ai rappelé que cette structure littéraire qui s'appelle le chiasme, hier soir, est une structure en entonnoir qui prend des idées semblables ou des mots et qui, en mettant en parallèle, arrive à une idée centrale qui est unique. Et c'est ainsi que l'auteur veut focaliser notre attention sur ce point en priorité. Dans le premier chapitre, le point qui était au centre était le moment où Jonas s'endort dans le bateau et reste tranquille. Tout le tour avait des parallèles qui arrivaient à cela. De la même manière, nous le voyons dans ce chapitre 2 que nous allons lire. Donc l'Éternel, verset 1, fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, et il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alors Dieu parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Nous avons... Et vous l'avez peut-être remarqué, les parallèles à la lecture qui sont apparus, au centre, la prière de Jonas. des mots poignants, forts, sur lesquels nous allons y venir un instant. Mais tout d'abord, le titre que j'aimerais quand même donner à ce chapitre 2, les grands moyens. Et vous savez, parfois Dieu, face à l'entêtement de ses enfants, peut arriver à employer de grands moyens pour arriver à faire comprendre quelque chose. Puissions-nous ne pas nous entêter autant face à Dieu, pour ne pas perdre de temps. Mais en même temps, c'est pour Jonas une leçon qu'il va apprendre, car de tout nous apprenons, et particulièrement de ce que Dieu fait sur nous. La première idée que j'aimerais développer est la suivante, cette descente hallucinante. Il y a, me semble-t-il, une progression qui commence dès le premier chapitre dans ce livre. Nous voyons que Jonas, pour s'enfuir, va commencer à descendre à Tarsis, c'est-à-dire au bord de la mer, alors qu'il se trouvait un peu plus sur les hauteurs, ville portuaire. Ensuite, Jonas va descendre, nous l'avons vu hier, à fond de cale, dans le navire. Donc il monte sur le bateau, mais il ne reste pas sur le pont, il descend pour s'endormir, pour s'isoler, on l'a vu hier soir. Et dans sa prière, il nous dit « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes », allusion à l'épisode dramatique et terrible du poisson qui l'a descendu dans la mer, jusqu'aux racines des montagnes. « Tu veux des émotions, dit Dieu, tu vas être servi. » Mais cette dernière descente-là, Jonas ne la provoque pas, et j'aimerais vous le faire remarquer. En fait, il perd en quelque sorte le contrôle de la situation. Jusqu'alors, il décidait. Je descends à Jaffa. J'achète un billet et je pars. Je descends à fond de cale. Parce que c'est mon choix. Mais là, le choix, il ne l'a pas. Lorsqu'il descend jusqu'aux racines des montagnes. Jusqu'à cet événement miraculeux du poisson, c'est lui qui avait la main sur sa vie, sur ses décisions, sur ses projets. Mais cette fois, Dieu prend les choses en main et le poisson va lui servir non pas de tombeau, mais de berceau, dans lequel tel un enfant va devoir revenir un petit peu aux sources, va réfléchir, va comprendre ce que Dieu veut faire pour lui. Oh, il est bien inoffensif cet animal, ce poisson, qui obéit au doigt et à l'œil à l'Éternel, son Créateur. Comme d'ailleurs cette ânesse de Balaam qui va obéir aussi au Créateur. Le corbeau d'Élie, ou les corbeaux qui vont amener à manger à ce prophète, alors en dépression. Alors pour ironiser un petit peu, ce cétacé va transporter Jonas gratuitement alors qu'il avait payé le prix du transport pour aller en Espagne, à Tarsis. Dieu le ramène gratos au point de départ. Et là, ce qui est intéressant de remarquer en même temps, c'est que Jonas ne risque absolument plus rien, contrairement à ce que lui pourrait imaginer ou penser. Pourquoi ? Parce que cette fois, parce qu'il ne contrôle plus la situation, et parce qu'il est tombé entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui le protège. David, lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, 2 Samuel 24, et qu'il décide de faire le dénombrement du peuple, le texte montre bien qu'en fait, le dénombrement qu'il a proposé n'était pas le peuple, c'était un peu une excuse, mais c'était surtout l'armée. Et Joab, son chef d'armée, ne comprend pas cette décision de David qu'il considère comme un peu folle. Et elle est à l'encontre même du plan de Dieu. Mais David, que nenni, continue, et il fait le dénombrement. Et lorsque le dénombrement lui revient, les chiffres de l'armée en particulier, montrant ainsi peut-être ce qu'il avait acquis par ses mains, mais c'est quand même Dieu qui lui avait donné tout cela, cet orgueil de David, il réalise qu'il a commis un péché. Et face à cela, Dieu lui propose pour le punir de 3 fléaux, comme souvent d'ailleurs, la famine, la guerre contre ses ennemis, ou la peste. On a parlé de la peste. Et David, en réfléchissant, et là il n'y avait pas de joker, prend la peste. Et vous savez pour quelle raison ? Au tombant entre les mains de Dieu. car ses compassions sont immenses. Je ne veux pas tomber entre les mains des ennemis. » Alors qu'il avait vu le nombre d'armées qu'il avait, c'est un test, hein, tu vois, David, tu as ton armée, tu as tant d'hommes, tu risques rien, alors vas-y, fonce, laisse-toi envahir. Non, tombons entre les mains de l'Éternel. Eh bien, c'est ce que vit Jonas, il est tombé cette fois entre les mains de l'Éternel. Alors, ne faisons pas dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Il s'agit dans le texte non d'une baleine, comme on le dit très souvent, mais d'un grand poisson. On peut penser à une espèce de requin qui existe encore aujourd'hui, le requin baleine, qui est énorme. Ce requin pourrait exceptionnellement atteindre 20 mètres de long et peser plus de 34 tonnes. Mais généralement, ils sont entre 4 et 14 mètres pour les plus communs. Vous voyez l'image et le plongeur à ses côtés qui montre la disproportion de cet animal qui, effectivement, peut sans aucun problème avaler un être humain. Le texte ne mentionne donc pas l'espèce animale. C'est une supposition que je fais là. Il est parlé juste d'un grand poisson, comme d'ailleurs, faisons en une remarque, dans le jardin d'Éden, il n'est non plus pas question d'une pomme, mais d'un fruit. Quelle importance me direz-vous ? Est-ce si grave que cela ? Eh bien, je crois que oui. C'est grave car lorsqu'on commence à prendre ce genre de liberté, qui paraît au premier abord un peu anodine et pas forcément très avec une grande influence sur la foi, encore que, non seulement le texte n'est pas respecté, mais c'est la parole même de Dieu que l'on fait mettre en doute. Beaucoup de théologiens, de chrétiens, adeptes du scientifiquement correct ou raisonnable, se sont achoppés sur cet événement surnaturel et l'ont placé comme un obstacle à une interprétation littérale de cette histoire, disant « c'est un conte ». Certains même sont allés jusqu'à dire que Jonas a imaginé ce poisson alors que dans l'eau, la proue d'un bateau l'aurait pris dans la tête. Et sur cette proue, il y aurait eu un poisson de sculpté. Et tombant dans le coma, il a imaginé ce qui lui est arrivé. On peut échafauder beaucoup de choses, bien évidemment. Je crois de tout mon cœur à la puissance de Dieu. J'espère que vous y croyez aussi. Je crois de tout mon cœur au miracle de Dieu. Ceux qui sont racontés dans l'Écriture et ceux qui s'opèrent encore aujourd'hui dans le corps de Christ, car il y a toujours des miracles, bien sûr. Et s'il est légitime de se poser des questions. L'apôtre Paul met en garde contre une réflexion basée sur la philosophie, le raisonnement ou la tradition des hommes. Lorsqu'il écrit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Prendre des libertés sur le nom d'un fruit ou le nom d'un cétacé, c'est en même temps prendre le risque aussi de prendre une certaine habitude de falsifier ou de s'arranger avec d'autres textes de l'Écriture. Vous savez, vous connaissez l'expression, hein, quand on nous prend le doigt, on nous prend la main, puis on nous prend le bras. Donc quand on commence à avoir des libertés, où, jusqu'où vont-elles s'arrêter? Et sans s'en rendre compte, pernicieusement, nous pouvons dévier. Je citerai Luther qui a dit « Si tu ne peux comprendre l'œuvre de Dieu, alors accorde au Saint-Esprit l'honneur d'être plus érudit que toi. Car il t'est demandé de ne pas oublier ce que tu lis dans l'Écriture. Dieu lui-même l'a écrit. Et parce que c'est Dieu qui parle, il n'y a pas lieu pour toi de faire dire à sa parole ce que toi, tu aimerais qu'elle dise. Ce n'est pas parce que l'on ne comprend pas certains passages ou événements de l'Écriture qu'il faut essayer, à tout prix, de trouver des explications rationnelles pour sauver la face. J'aime beaucoup ce verset qui est très facile à retenir, Deutéronome 29:29. Je trouve, on devrait le savoir par cœur ce texte, parce que ça m'aide beaucoup. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées nous appartiennent. et à nos enfants. Acceptons que Dieu ne nous révèle pas tout et en même temps, comprenons ce qui est révélé. Et ce qui est révélé, eh bien, ne le troublons pas, ne mettons pas de la confusion. Laissons la clarté de ce qui est révélé. Même s'il y a des moments où, c'est vrai, il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à expliquer, j'en suis conscient, dans la théologie. Si nous croyons que Dieu a été capable de créer les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve, capable d'apaiser la tempête pour Jonas en particulier, capable de ressusciter les morts tels que nous l'avons lu et nous le lisons dans les évangiles et dans l'Ancienne Alliance aussi, eh bien il a été aussi capable de susciter ce grand poisson pour ramener Jonas à la raison. Ceci dit, il y a quand même une explication pour savoir si Jonas a réellement ou pas vécu cette expérience. Car on pourrait, et si je peux me permettre, être l'avocat du diable, poser la même question que j'ai posée hier soir lorsque nous avons évoqué la manière dont nous pouvons endormir notre conscience et en particulier cette parole pernicieuse de Satan dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit ? Alors on pourrait se poser la même question. Jonas a-t-il réellement vécu l'épisode du poisson ? Eh bien, la réponse s'appuie sur le Seigneur Jésus lui-même. Car selon cette explication, nous pouvons affirmer que Jonas a bel et bien vécu cette expérience, c'est bel et bien une histoire vraie, et ceci pour cette raison majeure, et pour ce que le Seigneur Jésus a dit. Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent, ça nous le verrons cet après-midi, à la prédication de Jonas, et voici, il y a devant vous ici plus que Jonas. Que comprendre dans cette parole de Jésus ? Eh bien que Jésus ne se serait jamais comparé à un homme dont l'histoire serait un conte ou une histoire inventée. Cela aurait été de sa part prendre le risque, et quel risque, de faire supposer que sa propre mort et sa propre résurrection ne seraient pas non plus réelles, puisque Jésus compare ce qu'il va vivre plus tard, avec l'expression 3 jours et 3 nuits, à l'épisode de Jonas, qu'il a lui-même aussi vécu. Jésus oppose donc des faits à des faits, non une fiction à une fiction, ou une fiction à des faits. Jésus a utilisé l'histoire de Jonas pour annoncer d'une part sa mort et sa résurrection, en comparant son séjour au tombeau au séjour du prophète dans le ventre du grand poisson, par l'expression « 3 jours et 3 nuits » et d'autre part, il met ainsi en évidence la véracité de l'un et de l'autre. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est d'une certaine manière pour préparer ses auditeurs qui, souvenons-nous, demandent à Jésus de faire un miracle. Mais Jésus n'est pas un faiseur de miracles. Jésus ne veut pas en mettre plein la vue, il n'est pas là pour épater la galerie. Il a fait des miracles, et il en fera après cette question. Mais il n'en fera pas à cette génération ou à cette catégorie d'individus, scribes et pharisiens, qui pour Jésus sont adultères, c'est-à-dire vont à l'encontre de la parole même de ce qu'ils professaient eux-mêmes à ce temps-là. Mais vous avez l'histoire de Jonas. Pour cela. Et lorsqu'il précise à la fin de son texte, ou en tout cas de son exposé, il y a ici plus que Jonas, eh bien il se compare lui-même aussi à Jonas, mais en même temps de façon spirituelle. Je suis, et on le verra, l'envoyé, mais je suis plus que Jonas. Je suis fils de Dieu. Et je vais vivre la même chose que lui, d'une autre manière, mais dans le fond. Ce sera la même chose. Alors un tel doute ne peut donc exister car il mettrait en cause l'efficacité du pardon acquis par sa mort et l'assurance de la vie éternelle obtenue par sa résurrection. Rappelons-nous ce que dit Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais Christ est ressuscité, dira l'apôtre Paul. De plus, je ne pense pas me tromper en faisant remarquer que c'est la seule fois que Jésus compare aussi clairement un fait majeur de son œuvre, la résurrection, avec celle d'un prophète de l'Ancien Testament. Et je pense qu'il fallait souligner cela. Mais ce passage de Matthieu 12 que nous avons cité nous conduit à repérer la seconde préfiguration de Christ dans ce livre. Souvenez-vous hier soir de la première pour ceux qui étaient là. Lorsque Jonas décide, dit « Jetez-moi à l'eau et vous vivrez ». C'est-à-dire « Expulsez-moi de ce bateau parce que c'est moi qui attire sur vous la tempête ». Donc, quelque part, « Laissez-moi mourir » parce que Jonas sait qu'il va mourir. Pour lui, il veut d'ailleurs mourir, je l'ai dit hier soir, on en parlera mieux cet après-midi. Et par sa mort et par son « sacrifice » entre guillemets, ah, quel homme pour nous dire, hein. En fait, ce n'est pas dans cet esprit qu'il le fait, c'est surtout pour échapper à Dieu. Par ce sacrifice, eh bien, vous, vous vivrez. Mais tant que je suis avec vous sur le bateau, têtu comme je suis, si je peux permettre, la tempête ne s'arrêtera pas. Première préfiguration où Jésus, qui était imparfaite, bien évidemment, puisque Jonas est un coupable, n'est-ce pas, qui désobéissait, alors que Jésus est le juste, qui obéit à la volonté de Dieu, mais qui meurt à notre place pour que nous, nous ayons la vie et la vie éternelle. Mais nous avons une seconde préfiguration ici, dans l'expression « trois jours et trois nuits », car nous le comprenons bien. Ce miracle de l'ensevelissement de Jonas est un type, ou tout du moins une image saisissante de ce qui est arrivé à Jésus. C'est plus qu'une image, puisque c'est un fait réel, nous l'avons compris. Nous pouvons donc faire un parallèle avec les trois jours et les trois nuits du Seigneur, parce que lui-même, nous venons de le voir, y a passé. Mais précisons de la même manière que j'ai précisé pour le premier signe christologique, qu'il n'est pas parfait. Pourquoi ? Eh bien, parce que Jonas n'est pas mort dans le poisson. À l'inverse de Jésus, dont le décès a été clairement attesté. En effet, au bout de trois jours et trois nuits, Jonas fut délivré de la perspective de la mort, tandis que Jésus fut délivré, lui, de la mort. Ô mort, dit l'apôtre Paul, où est ton aiguillon ? Ainsi, si pour Jésus on peut parler de résurrection, pour Jonas, il ne faut parler que de délivrance d'une situation désespérée. Mais l'expression « trois jours et trois nuits » et ce qu'il a vécu dans le même laps de temps que Jésus plus tard nous montre bien ce parallèle de cette mort et de cette résurrection. Alors, je l'ai dit, le poisson est utilisé d'une part pour sauver Jonas de la noyade, mais aussi pour le discipliner, pour le faire réfléchir, pour le faire réagir, c'est-à-dire obéir à l'ordre qui lui avait été assigné. Va à Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, dont nous reparlerons cet après-midi, qui domine la région d'une main de fer. Et nous en arrivons à notre deuxième pensée, la solitude de Jonas. Pour mieux réaliser la portée des mots que Jonas exprime dans sa prière, il faut réaliser la situation. Imaginez que vous êtes plongé instantanément dans l'obscurité la plus totale. Tous vos sens entrent alors en action, n'est-ce pas ? Vous ne voyez rien et vous essayez d'ouvrir grand les oreilles et les sens. Et peut-être même que autour de vous, vous commencez à toucher quelque chose que vous n'avez jamais touché jusqu'alors. Un peu visqueux. Ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il y a une odeur un peu bizarre. Ça vous rappelle et ça vous renvoie à votre poissonnier du coin, n'est-ce pas ? Et là, vous vous pincez, parce que vous ne savez pas si vous avez la tête en bas, la tête en haut, ça bouge, il y a des bruits bizarres, mais tout est noir, l'obscurité totale. Alors des sueurs froides peut-être transpercent notre corps, engendrant instantanément des tremblements d'angoisse et de peur. Mais où suis-je ? Je ne sais pas si Jonas s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si le poisson est arrivé de face ou de dos. S'il est arrivé de dos, effectivement, il ne sait plus ce qui se passe. Il a été complètement tourneboulé en rentrant dans la gorge avec la mer et l'eau qui s'y trouvait. Et peut-être doit-il maintenant se mordre les doigts d'avoir un peu été aussi têtu. Qu'est-ce qui m'a pris de proposer aux marins de me jeter à l'eau? Je ne peux même pas mourir. Ah, pas sûr. L'obscurité, cette fois, n'est plus un refuge recherché. Souvenez-vous, au premier chapitre, il va à fond de cale dans l'obscurité. De même qu'il ne contrôle plus sa volonté, il ne contrôle plus même plus le lieu. Tu voulais de l'obscurité, Jonas? Eh bien, moi, je vais t'en donner. Mais là, il n'y a pas la petite lumière qui perce, n'est-ce pas, les bois du bateau et qui vient un petit peu éclairer l'endroit où tu te trouves. Hein? Non, il n'y a pas de fente là. C'est tout noir. Alors, tu peux allumer ton briquet, tu peux essayer de voir où tu es, n'est-ce pas? Suc gastrique du poisson, on imagine un petit peu. Non, non. Voilà. Pas question. Tu as voulu t'éloigner de moi, dit Dieu, eh bien ok. Maintenant, ton éloignement devient plus lointain, plus mystérieux encore que tu ne pouvais l'imaginer. Et c'est alors qu'il n'a plus qu'une seule alternative dans le lieu où il se trouve, c'est crier à celui qu'il est en train de fuir. Combien d'hommes et de femmes attendent ces extrémités-là pour crier à Dieu? Quand j'entends des gens de mon âge me dire « Oh, mais pour penser, j'ai le temps de penser à Dieu. Quand je serai à la maison de retraite, j'aurai tout le temps pour ça. » Attention, aujourd'hui, t'appartiens, demain ne t'appartient pas. Je veux profiter de la vie, je veux m'éclater, donc j'ai le temps de penser à cela aussi. Attention, tu ne maîtriseras rien non plus. Alors on comprend cette parole de Jonas qui, dès la première, dit « Du sein du séjour des morts, j'ai crié à toi et tu as entendu ma voix. » Oui, il se croit dans le séjour des morts. Ou c'est une expression qui fait comprendre qu'il se trouve dans une situation désespérée, catastrophique, qu'il met en parallèle avec le séjour des morts. Et malgré tout, et peut-être s'est-il cru mort, mais là encore, peut-être en se pinçant et en réalisant qu'il y a encore de la vie, son cœur bat, et c'est là qu'il crie à Dieu, il dit « Mais où je suis-je ?» Les autres termes qu'il emploie sont aussi très forts, il parle de l'abîme, il parle du cœur de la mer. Donc il n'est pas idiot, il sait qu'il était sur l'eau, maintenant il se trouve ailleurs, mais il n'est pas sur terre, ça c'est clair. Donc pour lui il est encore dans la mer, mais il est dans l'abîme de la mer. Il dit « Je suis chassé, je suis dans les racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient, la fosse », il parle vraiment de termes très 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 profonds, très très violents quelque part. C'est pourquoi la prière de Jonas est d'une grande profondeur, sans jeu de mots. Et elle décrit d'une manière émouvante toutes ses impressions et toutes ses angoisses. Et il va parler et exprimer. Par ses expressions comme « dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel ». C'est bien, Jonas, parce qu'il y a des gens qui, même dans la détresse, ne pensent même pas à invoquer l'Éternel. Je me suis souvenu de l'Éternel. Comment, Jonas, toi, prophète de l'Éternel, tu as oublié les dieux? Quand il partait à Tarsis, il partait loin de la face de l'Éternel. Comme s'il avait fait un petit déclic dans sa tête en disant « Je veux oublier non seulement Ninive, mais surtout celui qui veut que j'y aille. » En même temps, c'est vrai que il se souvient de l'Éternel, mais il se souvient aussi de ce que Dieu lui a dit. On comprend qu'il avait essayé d'occulter. « Mon âme est abattue. » Oui, ça y est, cette fois, le coup est dur, rude. Je vous fais noter que cette prière est une succession. Vous vérifierez dans vos correspondances, concordances et correspondances bibliques, est une succession de citations de psaumes. Et on peut en discerner une dizaine, rien que dans les quelques mots qu'il prononce. Il y en a quelques-uns ici, mais je n'ai pas mis les références. Hein. Jonas n'est pas le dernier venu, il est un prophète, il connaît les prophètes, il connaît les psaumes, il connaît la Torah, etc. Et il se base là-dessus pour crier à l'Éternel. Reprendre des psaumes, reprendre des paroles qui ont déjà été données par des hommes comme David et d'autres. Je l'ai dit hier au groupe de jeunes, et je l'ai rappelé en disant, mais les jeunes, faites attention, en parlant de l'importance d'emmagasiner les informations bibliques dans un monde où tout semble venir rapidement en un clic. La Bible ne s'enracinera pas dans notre esprit sans la lire. Donc il y a un effort qu'il faut faire, c'est quand même quelque chose à faire de notre compte. Et la parole de Dieu ne ressortira pas de notre esprit si elle n'a pas, une fois, elle n'est pas entrée. C'est une évidence qu'il faut encore rappeler. Ah, je ne connais pas ma Bible. Ah oui, mais est-ce que tu l'as lue? Est-ce que tu l'as méditée? On raconte il y a bien des années, et c'est portes ouvertes, l'association où les persécutés, les chrétiens persécutés, avaient donné ce témoignage, je crois que ça date d'au moins 25 ans, je ne sais plus où c'était, dans quel pays, où des chrétiens avaient été arrêtés et mis en prison. Et la première chose qu'ils ont demandé aux geôliers, c'est de leur donner, s'ils pouvaient avoir cette chance, entre guillemets, des papiers et des crayons. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de transcrire, parce qu'on leur a accordé, de transcrire sur ces papiers et ces crayons tout ce qu'ils connaissaient de la Bible. En se disant, nous ne savons pas combien de temps ça va durer, nous ne savons pas, par rapport aux privations que nous allons avoir, si notre intelligence, si notre physique va tenir le coup, et si nous allons nous rappeler de ce que nous connaissons maintenant. Et donc, ils se sont mis à écrire. Et à tous, ils ont plus ou moins retrouvé des histoires d'un évangile en général. Et bien, leur en a pris, car ça a duré longtemps. Ils ont mis cela dans leur cellule, et régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, ils relisaient ces textes qu'ils s'étaient remémorés. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve non plus. Profitons aussi du temps que nous avons pour cela. Vous noterez aussi que Jonas ne demande rien à Dieu dans sa prière. Explicitement en tout cas, parce que implicitement, lorsqu'il dit « j'accomplirai les vœux que j'ai faits », on peut supposer que dans ce drame, il aurait fait un serment, peut-être celui de l'obéissance, enfin, si Dieu le sort de la situation pour la moins inconfortable. Ou bien fait-il simplement allusion par cette expression « j'accomplirai les vœux que j'ai faits » à son appel de prophète, jadis, qu'il est en train quelque part de s'aborder. Et il y reviendrait. Non, je n'ai pas le droit d'eux. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Et à travers cela, il y a aussi l'obéissance à ce que Dieu me demande, c'est-à-dire aller à Ninive. Le narrateur ne spécifie pas la nature de l'engagement, mais le contexte fait immédiatement penser justement à cet appel de se rendre dans cette ville. L'obéissance de Jonas, lors du second appel, après avoir été vomi par le poisson, confirme ses bonnes dispositions, car lorsque nous lirons cet après-midi une partie au chapitre 3, Dieu lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva pour aller à Ninive. Il y a une opposition complète entre le premier verset du premier chapitre et Jonas s'enfuit à Tarsis, après le même appel. Mais entre les deux, il y a l'épisode du poisson. Jonas s'en sort parce qu'il s'est quelque part un peu secoué. Mais Dieu l'a bien aidé à se secouer, n'est-ce pas? Il s'est réveillé. Et malgré son caractère et sa mauvaise foi, parce que nous allons voir tout à l'heure que Jonas reste quand même un homme à fort caractère, ok pour accomplir les vœux que j'ai faits, ok pour obéir à la Ninive, mais attention, j'ai pas dit mon dernier mot. Jean-Baptiste s'est écrié, et notre frère l'a rappelé tout à l'heure à un moment de prière, ou je ne sais plus quand tu l'as dit, « Il faut qu'il croisse Jésus et que je diminue. » Ce que vit Jonas dans le poisson, c'est vraiment une humiliation et en même temps une réalisation de faire grandir l'Éternel, ou en tout cas de mettre à nouveau l'Éternel à la première place. Et là, nous pouvons nous poser la question, où en sommes-nous dans notre vie aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en train de vivre un épisode dit du poisson? Parce que nous n'avons pas obéi ou que nous sommes en rébellion contre Dieu pour X ou Y raison. Dieu nous demande de le laisser à nouveau prendre les rênes, prendre la main dans notre vie, pour que nous puissions obéir simplement. Jean-Baptiste avait bien saisi cette nécessité de laisser tout son être entre les mains de Dieu. Et quand Jonas va repartir, va être vomi, eh bien c'est comme s'il a laissé en arrière tout ce qui était mauvais. Mais en même temps, on le verra, son tempérament, sa nature d'homme va le suivre, même s'il obéit à l'ordre de Dieu. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, dira l'apôtre Jean, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie la conservera pour la vie éternelle. Cette graine qui meurt, et l'expression 3 jours et 3 nuits, nous l'a fait comprendre par Jésus, a donné des fruits dont nous sommes spirituels. Et en même temps, Jonas va porter aussi des fruits après cette résurrection, entre guillemets, cette délivrance du poisson. Des fruits qui vont aller jusqu'à l'étonnement du prophète. Quoique, on le verra, il ne sera qu'étonné qu'à moitié par la conversion et la repentance des Ninivites. Oui, les épreuves de la tempête, d'une part, et du poisson, d'autre part, ont eu raison de son obstination et ont touché le cœur de Jonas. Enfin, pourrait-on dire, le but est atteint. Il semble devenir raisonnable. Mais nous verrons effectivement comment l'histoire continue à travers la proclamation qu'il va devoir faire au milieu de ce peuple terrible et terrifiant que sont les Assyriens. Prions encore ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est encore une joie de pouvoir méditer, partager. Te prie pour que ton esprit, Seigneur, saisisse ces paroles de ta parole et prenne corps dans notre vie. Fasse son œuvre de sanctification, d'édification. Peut-être devons-nous être repris encore ce matin, comme Jonas, Seigneur. Tu nous connais, tu connais nos pensées, tu connais nos sentiments. Et je te prie pour que chacun vraiment ne reste pas sans réaction si l'Esprit de Dieu a montré quelque chose de particulier. Puissions-nous avancer dans ce sens, Seigneur, sous ton autorité, et pour manifester ainsi ta gloire à travers notre vie. Car Seigneur, tu veux te manifester à travers nous. Et tu veux d'abord te manifester en nous, pour nous transformer, nous changer. Oui Seigneur, que ton nom soit loué. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.